Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous que Genève a aussi accouché de personnages encombrants et déstabilisants pour les édiles de l'ordre établi conservateur, où l'innovation de la libre pensée pouvait faire chanceler cet ordre par un humanisme loin des conventions de cette époque. Et l'un de ses enfants les plus prestigieux naquit en Aumur en 1712 au numéro 40 de la Grand-Rue. Jean-Jacques Rousseau, c'est de lui qu'il s'agit, commença plutôt mal son existence. Sa mère mourut à sa naissance et son père était loin d'être à l'aise. L'instruction de l'enfant laissa à désirer, et quand son père le mit en apprentissage, il s'avéra qu'il en était incapable. Son intérêt était sans doute déjà ailleurs. À 16 ans, sans aucune perspective d'avenir devant lui, Jean-Jacques avait peu de raisons de demeurer à Genève. Il quitta donc la ville en 1728 et commença une vie errante. Au cours de ses pérégrinations, il survécut en s'insinuant dans les bonnes grâces d'une série de protecteurs, dont une protectrice qui l'a rendu illustre, Madame de Varence. Il travailla sporadiquement comme précepteur, secrétaire, copiste de musique, etc. Mais tout son temps libre était dévolu à sa propre instruction. Il lisait énormément et en observant encore davantage ses semblables et leurs existences. Après deux décennies de cette vie, se développèrent chez lui le talent qui lui permit d'écrire des essais, des pièces de théâtre et même de la musique. En 1749, il était déjà lauréat de plusieurs prix. Il avait acquis l'estime du roi et de sa cour, et la critique saluait son génie. La renommée de Rousseau ne laissa pas indifférent sa ville d'origine, qui voulut se l'accaparer et l'accueillit à nouveau en 1754. La bonne société genevoise l'adula de maison en salon, flagornerie et autres flatteries le lassèrent assez rapidement. Le philosophe fut attiré à nouveau vers la France par l'offre reçue d'une autre protectrice. Il s'agissait de Madame d'Épinay, qui lui offrit l'hospitalité et reconnaissance à Montmorency, dans sa maison de l'Ermitage. C'est dans cette retraite qu'il écrivit la nouvelle Héloïse et du contrat social, deux ouvrages où il exprimait des idées très avancées pour l'époque, qui mirent en rage tant le gouvernement français que celui de Genève. Mais c'est une autre histoire. Saviez-vous qu'en 1607, Genève comptait 300 marchands et autres négociants qui déposèrent leurs marques en vue de l'exception des péages, dit de la traverse. De ces 300 marchands, certains nous renvoient au commerce régional, blé, vin, viande, laitage, etc. Vient s'ajouter le commerce du sel, de produits manufacturés et de matières premières. D'autres commerçants en rappellent ce qui s'appelle aujourd'hui l'exportation, commerce plus noble, comprenant les livres et ouvrages rares imprimés à Genève, l'horlogerie, l'orfèvrerie, les parfums et les drogues diverses, et les soieries. Sur le nombre de ces 300 marchands, un nombre important d'entre eux commerçaient avec Lyon, Marseille, Gênes, Milan, voire l'Espagne ou le Levant. La majorité de ces commerçants étaient le fait des exilés ou leurs descendants, des protestants, italiens, rejoints par les premiers réfugiés français huguenots, trouvèrent refuge à Genève. Les conséquences furent qu'ils prirent une importance croissante et l'influence qu'ils exercèrent sur l'économie genevoise et suisse fut des plus prolifiques. Ces exilés implantés à Genève avaient dans la majorité gardé et entretenu des liens amicaux ou familiaux avec leur pays d'origine, ce qui simplifiait les échanges. Parmi eux, plusieurs devinrent célèbres et des rues, des places, des boulevards portent leur nom. Les plus connus venaient de Luc, en Toscane, les Diodati, les Micheli, les Minilotti ainsi que les Turetini. D'autres viennent de Cremone, les Fossa, Fogliato, Offredi. Ceux de Vicence, de Vérone, de Gênes et d'autres bien encore. La plupart d'entre eux commerçaient la soie, grands négociants qui étendirent leur commerce et leurs entreprises à Bâle, Zurich, Lyon, Paris, en Allemagne, à Londres. Les autres, orfèvres, horlogers, architectes, etc. Ce n'est là qu'une partie congrue de tous les autres exilés qui apportèrent à Genève le rayonnement qui demeure encore aujourd'hui. Nous y reviendrons, mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que Genève fut aussi traversée, au fil des siècles, par d'autres touristes qui eurent une influence loin d'être négligeable pour Genève, en développant d'autres aspects de courant d'idées, de connaissances? Templiers, maîtres en héraldique, alchimistes, occultistes, l'ordre des chevaliers de Malte, tous ces mouvements passèrent par Genève. Paracels, Cornelius Agrippa et bien d'autres maîtres occultes passèrent ou s'installèrent et distillèrent leur savoir. Les francs-maçons s'imposèrent eux aussi en développant les premières loges. Nous y reviendrons. Justement, revenons aux Templiers. Cet ordre religieux et militaire qui domina le monde des croisades, ces hommes vêtus de manteaux blancs ornés de la croix rouge templière, possédaient des commanderies partout en Europe sur les chemins des pèlerins. Par sa position de carrefour à l'axe des routes commerciales, ils ne pouvaient ignorer Genève. L'ordre était présent à Saint-Gervais et une importante commanderie de cet ordre occupait l'espace entre la rue Saint-Laurent, la rue d'Italie et la rue de Rives. Dans le même temps, un autre ordre militaire et religieux, issu des croisades lui aussi, était présent à Genève, grand rival des Templiers. J'ai nommé les Hospitaliers de Saint-Jean, les futurs Chevaliers de Malte, qui, eux, installeront leur commanderie dans la campagne genevoise, précisément à Compezières. Cette commanderie existe toujours de nos jours sous l'aspect d'un château et recèle à l'intérieur un musée public sur l'ordre et son histoire. Certains prétendent que les Templiers furent les principaux bailleurs de fonds qui permit la construction de la cathédrale Saint-Pierre. Quant aux mouvances occultes présentes à Genève, la pierre philosophale et la transmutation du plomb en or, c'est une autre histoire.
Bientôt, d'autres histoires.